Le 18-20 ce soir sur les syndicats dans la campagne présidentielle. Les sujets de débat sont nombreux. 35 heures, forme et avenir du travail dans une société numérique, dialogue social, lutte contre le chômage, périmètre de la fonction publique, j'en passe évidemment. Les différences entre les candidats sont massives, elles engagent des visions du monde très différentes sur une palette qui va du libéralisme plus ou moins ultra à l'interventionnisme d'État sous toutes ses formes. Alors comment les syndicats analysent ces enjeux? Comment se positionnent-ils dans cette présidentielle? On en parle jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Les invités du téléphone sonne, Véronique Descac, je l'avais bien dit, secrétaire général adjointe de la CFDT. Fabrice Angéhi, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire confédéral de la CGT. On termine ce tour de table avec Alexandre Sobo, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président du MEDEF en charge du pôle social, président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Avant de retourner, d'aller au standard, pardon, une première question sur cette campagne présidentielle. On l'a dit, atone, pauvre en débat, mais j'ai l'impression que sur tous ces sujets, les sujets qui vous concernent, vous syndicalistes, et qui concernent aussi énormément de Français, cette campagne a été plutôt riche, non? Qu'en pensez-vous, Véronique Descac?
Oui, bien sûr, elle a été riche. D'abord parce que la CFDT a contribué à l'alimenter, en quelque sorte, avec la grande enquête qu'on a fait sur le travail, Parlons Travail, 200 000 répondants, qui nous a permis d'interpeller les candidats sur les questions de la vie quotidienne au travail des salariés. Et puis, c'est vrai que avec le revenu universel, avec la construction européenne, avec évidemment toute la question de quoi faire pour relancer l'économie et créer des emplois, j'ai quand même le sentiment que les questions d'emploi, de travail et de protection sociale, avec les nouvelles formes d'emploi par exemple, ont vraiment été au cœur de beaucoup des programmes et du coup de beaucoup des débats.
Fabrice Angéhi, pour la CGT, même sentiment?
J'ajouterai qu'effectivement les organisations syndicales, les unes comme les autres, et la CGT notamment, donc a fait en sorte à pousser pour que cette campagne électorale donc parle vraiment des questions sociales. Après, je pense que ces questions-là, les événements ont fait que elles sont moins audibles. Même si effectivement, c'est le fond, la question de la réduction de temps de travail, de l'emploi, de l'organisation du travail, c'est notre quotidien, de le bien travailler, le travailler mieux, le travailler tous. Donc voilà, ces questions-là, donc on les a poussées, il y a des positionnements, mais on les entend pas trop, hélas.
Comment on vit les choses et comment on les perçoit du côté du MEDEF, Alexandre Sobo?
Écoutez, nous portons une conviction qui a été retracée dans un livre bleu sur le fait qu'il faut remettre l'emploi au cœur de tous les projets et que le chômage de masse est un cancer qui ronge le pays. Donc, comme ça a été très bien dit avant, le sujet est dans le débat. Maintenant, on s'interroge sur la qualité des solutions. Il ne suffit pas d'en parler, il faut être capable de mettre en œuvre une vraie politique qui permette un jour de relancer l'emploi dans ce pays pour résoudre...
Et là-dessus, vous restez sur votre faim?
Je reste un peu sur ma faim à ce stade, mais il reste 3 semaines de campagne, donc...
Oui, mais enfin, pourquoi vous restez sur votre faim?
On est dans un environnement où on parle quand même assez peu...
Ça se rapproche quand même, hein.
On parle assez peu des solutions, on est un petit peu dans les généralités, et quand on le sait, en matière sociale et dans toutes ces réformes, il faut aller dans le détail, il faut trouver des solutions au plus près du terrain pour répondre à la fois aux besoins d'adaptation, de flexibilité des entreprises et aussi à l'inquiétude des salariés. C'est dans le dialogue social, c'est dans des échanges nourris qu'on pourra, j'espère, construire des solutions qui permettront de sortir le pays de l'ornière.
Aucun des candidats jusque-là, Alexandre Sobo, ne trouve grâce à vos yeux ou ne s'approche de ce que vous aimeriez voir mis en œuvre?
Écoutez, il y a quand on fait le tour des candidats, il y a un certain nombre de candidats qui ont fait le choix du repli sur soi, du refus du monde et du progrès économique. Donc cela, évidemment, inquiète tous les entrepreneurs de ce pays. Ensuite, il reste 2 candidats qui prônent l'Europe, l'ouverture sur le monde, jouer les atouts de la France. Et là, on attend le détail de ce qu'il propose.
Emmanuel Macron, François Fillon, j'imagine.
Voilà, avec une vraie question sur les conditions de mise en œuvre de leur programme. Il y en a un qui veut remettre l'État à beaucoup d'endroits où nous essayons de prouver notre capacité à faire. Et il y en a un autre dont on a un peu peur qu'il ait du mal à tout mettre en œuvre compte tenu de l'ampleur de ce qu'il veut faire et de le nécessaire diagnostic partagé et échange avec les acteurs.
Sur le détail, Véronique Descac, sur le détail des mesures, le détail des programmes, la qualité de ce qui est offert comme piste de réforme, est-ce que vous aussi, à la CFDT, vous restez sur votre faim?
C'est sûr que quand on commence à s'intéresser à la faisabilité des propositions, on peut être un petit peu dubitatif. Par exemple, il y a un candidat qui explique qu'il veut nationaliser l'assurance chômage pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Quand on essaye de comprendre lesquelles, comment il va faire, comment il va les financer, quel circuit il va mettre en place pour que ça fonctionne vraiment, comment il s'assure que au plus près de la réalité des salariés, des demandeurs d'emploi, des entreprises, tout ça peut fonctionner, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a dépassé le stade du discours, il y a moins de faisabilité concrète mise en œuvre. Sur la question du dialogue social, alors c'est leur moment, c'est le moment politique, donc ils disent ce que eux ils entendent faire. Du coup, ils relèguent un petit peu au second plan toute la question de la méthode et de la méthode dans le dialogue et dans le dialogue social. Et moi, je crois profondément, enfin la CFDT, on est convaincu que quand on veut mener des réformes profondes, et on pense qu'il y a des réformes profondes à mener pour remettre le pays sur le chemin de la prospérité, de la cohésion sociale, etc. Ces réformes-là, elles ne peuvent se faire que si on fait adhérer les citoyens avec eux. Et ça, on ne nous dit pas quelle est la méthode qui va être utilisée pour faire adhérer le plus grand nombre.
On ne fixe même pas des philosophies. On peut avoir le sentiment, en entendant les différents candidats, qu'il y a tout de même des orientations, des volontés de faire de cette manière ou de cette autre.
Il y a des philosophies très claires. Il y a l'ultralibéralisme. Il y a un libéralisme teinté de préoccupations sociales et sociétales, mais qui ne fait pas sa place au dialogue social. Il y a évidemment le repli sur soi, je dirais aux deux extrêmes de l'échiquier politique, on voit bien qu'on est sur des stratégies de repli sur soi, d'accusation, de mise en accusation du projet européen, alors qu'à la CFDT, on croit que c'est au travers du projet européen qu'on pourra relancer l'industrie, l'activité économique, mais aussi l'emploi en luttant contre le dumping social, etc. Donc on voit qu'il y a ces grandes philosophies. Il y en a qui sont très européens, il y en a qui sont complètement anti-européens, il y en a d'autres qui évitent trop de s'avancer sur la question, mais il y a quand même des grandes tendances. On voit bien les libéraux,
les interventionnistes, les colbertistes, voilà. Les post-colbertistes, les protectionnistes, etc. Oui. Fabrice Angéry pour la CGT.
J'ai un peu de temps à récupérer. Je pense que nous, on raisonne un petit peu, j'ai dit tout à l'heure, donc différemment. Voilà, on a fait un communiqué en disant on refuse de choisir entre le pire et le moins pire, on veut le meilleur. Et je vais concrétiser. Donc je le disais, on porte un certain nombre de revendications pour qu'elles soient reprises par des candidats et on se réjouit que certaines propositions telles que la réduction du temps de travail, les 32 heures, telles que l'abrogation de la loi El Khomri, non pas pour rester figé sur l'existant, mais pour aller sur un droit du travail véritablement protecteur, apportant des garanties aux salariés, soit dans le paysage, soit dans le paysage aussi. On se réjouit aussi que la question de la fonction publique ne soit pas vue sous l'angle stricto sensus de la dépense publique. Nous, on considère que c'est une richesse et donc il y a peu de candidats qui disent qu'il faut effectivement développer à la fois la fonction publique et les emplois industriels parce que ça va de pair. L'industrie, on n'en parle pas beaucoup dans cette campagne-là. La CGT porte des projets. On a une action qui est constante. Mmh. On porte des revendications. On est en lutte aujourd'hui. Demain, les agents du nettoiement donc seront en mouvement donc à l'appel de la fédération pour réclamer un 13e mois, on est porteur de revendications aux candidats de s'en saisir. Et on voit effectivement qu'un certain nombre de candidats s'en saisissent. Mais tout n'est pas le programme de la CGT.
Allez, direction le Standard. Bonsoir Didier, vous nous appelez de Besançon.
Bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir,
on vous
Nicolas,
écoute.
Bonsoir France Inter.
Bonsoir.
Oui, donc je pose ma question, c'est pour le programme de François Fillon. Il est inhumain, il va détruire le travail et c'est très très grave. Cet homme est dangereux. On va se retrouver, je sais pas si vous avez déjà vu le feuilleton Jacques le Croquant de 1968, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, c'était il y a longtemps, hein.
Oui, mais
j'ai vu une rediffusion.
C'est le comte de Narsac dans le feuilleton. On va se retrouver vraiment en sabot, si je puis dire. Il va tout détruire. S'il passe, j'ai des doutes qu'il va peut-être passer. Je veux dire, on va se retrouver, nous, avant 36, je veux dire, les anciens se sont battus pour nos droits sociaux en 1936.
Vous craignez, Didier, notamment pour le code du travail?
Tout, le système social, tout, il va tout détruire. Cet homme est ignoble. Oh. Je veux dire, il est très dangereux. Je veux dire, on le sous-estime. Je veux dire, il faut que vos auditeurs sachent que cet homme est très dangereux. Il va tout détruire. Il n'y aura plus rien. On sera comme sous les temps de Thatcher, vous savez, dans les années 80. Et cet homme est très dangereux.
On le
sous-estime. C'est très grave.
On a bien compris, Didier. Merci. Je vous laisse évidemment la responsabilité de vos adjectifs, mais on a bien compris l'idée. Comment vous réagissez, Véronique Descac, à cette idée donc que le candidat Les Républicains est très dangereux pour le modèle social, pour les acquis sociaux 1936, disait Didier. Donc sur tous ces points.
Alors d'abord, on évite de s'attaquer aux personnes pour ce qui nous concerne. On regarde de près ce que proposent les programmes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de thématiques dans le programme de François Fillon qui ne peuvent qu'heurter les oreilles de la CFDT. Je lis par exemple la fin des 35 heures, qui est un projet pour lequel la CFDT s'est beaucoup battue. L'abrogation du compte pénibilité. Nous, on considère que la mise en place de la pénibilité, c'est une mesure de justice sociale parce qu'on a soutenu à la CFDT l'allongement de la durée des carrières pour pouvoir financer le régime de retraite. En contrepartie, la pénibilité, pour nous, c'est une mesure de justice sociale indispensable pour les gens qui ne peuvent pas rester longtemps au travail ou qui ont commencé très jeunes. Donc effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui nous inquiètent. En même temps, on est face à un candidat qui représente un parti politique qui a déjà gouverné. Donc on a déjà eu l'occasion à la fois de protester, de contester un certain nombre de dispositions qu'ils avaient mis en œuvre. On a eu aussi l'occasion peut-être de travailler sur un certain nombre de choses sur lesquelles on pensait qu'il était possible d'avancer. Je pense à un certain nombre de réformes en matière de protection sociale, par exemple, ou en matière de sécurité sociale. Donc voilà, il y a une grande différence pour nous entre un candidat dont on ne partage pas un certain nombre d'options dans la campagne, et puis un candidat, en l'occurrence une candidate, qui, elle, représente un parti qui n'est pas un parti démocratique et républicain au sens où on l'entend, et pour lequel la CFDT s'exprimera clairement à aller voter contre ce parti et sa représentante. Là, évidemment, il y a beaucoup de thèmes dans la campagne de François Fillon qui ne conviennent pas à la CFDT, et on les combattra s'il est élu avec les armes qu'on utilise d'habitude, sont celles du dialogue ou de la manifestation s'il le faut.
Et que pense la CGT du programme de François Fillon, Fabrice Angéhi, et de ce qu'en disait Didier, notre auditeur?
Nous également, on n'a pas d'écurie pour un candidat. Néanmoins, effectivement, ce programme contient des dispositions extrêmement, j'allais dire, nocives pour le monde du travail. Je rejoins un point qui a été dit par ma camarade de la CFDT. La question des 35 heures, lorsqu'on revendique la réduction de temps de travail, dire qu'il faut travailler 39 heures, y compris, on ne sait même pas si elle serait payée 39 ou 35, je crois que c'est 35, ça pose un certain nombre de questions. La protection sociale, le fait d'amoindrir, les remboursements, de déréguler la protection sociale pour aller vers l'assurantiel, je le fais très simple, puisqu'on n'a pas le temps de développer. C'est aussi des questions qui nous inquiètent. Mais après, effectivement, on a montré notre capacité de lutte, de mettre les questions sociales au cœur du débat. Ça n'arrêtera pas l'action syndicale, et heureusement.
Alexandre Sobo, pour le MEDEF, votre lecture du programme de François Fillon et de ce qu'en disait notre auditeur?
Écoutez, je partage l'avis de Véronique Desca qu'on n'est pas là pour porter des jugements sur les personnes. La conviction profonde du MEDEF, c'est que le statu quo n'est pas une option. La situation actuelle du pays, avec plus de 3 millions de chômeurs si on prend les catégories A, plus de 5 si on prend tous les gens qui ne travaillent pas à plein temps, c'est un drame social. C'est d'abord un drame pour nos jeunes qui mettent aujourd'hui plus de 5 ans à avoir leur premier CDI. On voit bien toutes les difficultés, donc il faut changer des choses. Et il faut changer des choses non pas parce que notre modèle n'est pas bon, mais parce que le monde a changé. En fait, depuis 30 ans, notre environnement a changé, un monde beaucoup plus volatile, beaucoup moins prévisible, beaucoup plus de concurrence. Et en même temps, la France a de formidables atouts sur la qualité de ses ingénieurs, la qualité de son travail, son imagination, ses entreprises qui, dans cet environnement pas toujours complètement adapté, ont réussi à s'en sortir. Donc l'objectif qu'on porte, c'est de donner aux entreprises les moyens d'apporter leur contribution au redressement du pays. Et de ce point de vue-là, nous avons fait un certain nombre de propositions. Elles sont parfaitement libres de droit, donc qui veut s'en inspire. Je constate effectivement aujourd'hui que François Fillon et Emmanuel Macron s'en inspirent un peu plus que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.
On retourne au standard. Je salue Catherine qui nous appelle de Fontenay-sous-Bois. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'aimerais savoir comment vos interlocuteurs syndicaux considèrent les propositions d'Emmanuel Macron concernant le contrat unique, c'est-à-dire qui s'applique à tous les salariés, quels qu'ils soient, de quelque secteur qu'ils soient, c'est-à-dire secteur privé et secteur public. Également, quelle est leur position par rapport à la réforme des retraites qu'ils proposent, qui viserait à ce que chacun soit traité à la même enseigne. Moi, je constate que dans les entreprises, des jeunes qui rentrent ne peuvent absolument pas créer une vie parce qu'ils sont tous en CDD, les banques ne leur prêtent pas d'argent, ils ne peuvent pas trouver de logement, etc. Ce qui, à mon avis, ne doit pas beaucoup contribuer à la reprise économique, puisque de toute façon, les jeunes, c'est eux qui doivent acheter des réfrigérateurs, des voitures, etc. Ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils n'ont pas les prétentions conditions des prêteurs et des bailleurs sont absolument ridicules. Donc, moi, je vois pas d'autre option pour les jeunes que, effectivement, de pouvoir rentrer dans le monde du travail avec le même type de contrat que les salariés.
Bien reçu.
Voilà, ma question. Ce que je voulais savoir aussi, surtout, c'est est-ce que les syndicats, tels qu'ils sont, seraient prêts à négocier sur cette base-là, enfin, sur ces idées-là, qui sont, à mon avis, qui risquent de changer beaucoup de choses dans la société française, et tout en traitant des questions de pénibilité de la même manière dans le secteur privé, dans le secteur public. C'est-à-dire qu'une infirmière qui travaille la nuit, elle doit, elle également, avoir la même, le même traitement de pénibilité que les gens dans, dans le secteur privé.
Bien compris, Catherine. Bien compris. Alors, il y a beaucoup de choses, Catherine. Merci. Dans votre question, on commence par le contrat unique chez Emmanuel Macron. Lecture, analyse de Véronique Descac pour la CFDT.
Oui, alors si j'ai bien compris la question de l'auditrice, l'idée c'est un même type de contrat ou de relation professionnelle, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, et même il y avait dans sa question, et je pense qu'elle a raison, la question des nouvelles formes d'emploi, c'est-à-dire des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont pas forcément salariés, qui sont auto-entrepreneurs, mais en vérité économiquement dépendants d'un donneur d'ordre, parfois d'un donneur d'ordre unique. Alors moi ce qui me frappe, c'est que dans tous les programmes des candidats, il y a cette idée qu'il faut réformer un petit peu le lien, la relation entre celui qui donne du travail et celui qui exerce le travail. Et qu'il faut réformer cette relation, qu'on soit salarié, parce qu'il y a aussi beaucoup de précariat dans le salarié. Agent de la fonction publique, il y a aussi beaucoup de précariat dans la fonction publique, évidemment pour mieux protéger les auto-entrepreneurs. Et ça existe, c'est le compte personnel d'activité. Donc chaque candidat, il va de sa petite proposition. Il faut donner de la formation à tout le monde, il faut donner de la protection sociale à tout le monde, il faut un statut qui dépasse le simple statut de salariat tel qu'il existe aujourd'hui. Mais ça existe, et je note là une espèce de bizarrerie. Les candidats font un peu table rase des bilans des années précédentes et des réformes des années précédentes. Chacun réinvente le compte personnel d'activité, mais moi je pense que c'est une idée qu'il faut continuer à creuser. On a maintenant un outil, le CPA, qui permet de donner à la fois des garanties, des protections et d'accompagner dans leur parcours professionnel les gens, quel que soit leur statut, quel que soit leur contrat, fonction publique, privée, sans contrat, etc. Et je pense que ça, c'est un bon outil.
Toujours sur le contrat unique, les contrats, les formes même du contrat, Fabrice Angéhi de la CGT.
Oui, donc c'est des questions qui sont... qui étonne un petit peu. Donc le contrat unique, c'est pas uniquement la question de la précarité telle qu'elle est posée. C'est un contrat, j'allais dire, similaire fonction publique et salarié du privé. Or les finalités ne sont pas les mêmes. Un salarié du privé, pour le dire simplement, travaille pour un actionnaire, alors qu'un fonctionnaire, pour beaucoup. Par contre, donc un fonctionnaire, lui, travaille donc pour l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il a un statut et qu'il y a une différenciation du contrat. Maintenant, l'idée, moi je la comprends, la partage, et par contre les propositions qui sont amenées ne sont pas les bonnes. L'idée, je le rappelle, en France, le CDI est la norme, c'est pas le CDD. Moi je regrette qu'on ait renoncé lors de la négociation assurance chômage à taxer les contrats courts. Il y a également des propositions qui visent à sécuriser les CDD, non pas pour abaisser le CDI, mais pour le ramener à un niveau d'un CDI. Voilà, il y a des propositions par exemple du groupe de recherche pour notre code du travail qui sécurise ce CDD pour le mettre un petit peu à l'équivalent d'un CDI avec un droit à entretien de licenciement, etc., etc. Donc il y a plusieurs pistes, voyez, donc qui remontent les droits vers le haut, y compris l'idée qui paraît être séduisante d'une retraite à points, tout le monde, enfin, telle qu'elle est proposée, donc chacun aura ce qu'il a cotisé la même somme. C'est quelque chose qui ne tient pas la route, qui va pénaliser donc les carrières discontinues, les femmes et les bas salaires.
On va venir à la question des retraites, mais d'abord on finit le tour de table sur les contrats de travail, les différents contrats de travail, CDD, CDI, etc. La parole au MEDEF. Avec vous, Alexandre Sobo.
Je pense qu'il faut, quand on parle de contrat de travail, d'abord être factuel sur la structure du marché du travail en France. Depuis 20 ans, elle est parfaitement stable, avec les trois quarts des gens qui ont un CDI, un peu plus de 10% qui sont en CDD, un peu plus de 10% qui sont en travailleur indépendant et 2% en intérim. Donc expliquer qu'il y a une explosion de la précarité en France n'est pas la réalité du marché du travail. La seule chose qui a beaucoup augmenté, et c'est malheureux et c'est incontestable, c'est le chômage.
Donc il faut le travail indépendant aussi a explosé du coup sous l'effet...
Pas en poids dans l'économie.
Allez-y.
Voilà, et donc aujourd'hui c'est cette réalité. Donc poser la question du fonctionnement du marché du travail par le contrat unique ne me semble pas porteur d'avenir. En revanche, se poser la question de savoir comment on fait en sorte que les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, accèdent plus vite à une situation stable, les raisons pour lesquelles aujourd'hui on est à plus de 5 ans pour avoir son premier CDI avec toutes les difficultés que ça représente, ça c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais généraliser, dire on va donner des CDI à tout le monde alors que l'activité est de moins en moins prévisible, que certains jeunes d'ailleurs n'aspirent pas à cette forme de relation de travail, nous renvoie sur des questions. Allons voir au plus près du terrain la réalité des besoins et construisons idéalement ensemble les solutions adaptées plutôt que d'imaginer plaquer un modèle unique.
Mais alors, est-ce qu'il faut inventer un type de contrat qui n'existe pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, CDD, CDI,
aujourd'hui,
ça
tout
suffit.
Existe. Aujourd'hui, c'est la façon
CDDU,
dont on le.
C'est la façon dont on l'utilise. Mieux protéger les gens, quel que soit leur contrat. C'est ça l'idée. Mieux protéger les gens, mieux sécuriser leur parcours, quel que soit le contrat qu'ils ont.
Et pour parler une seconde des retraites, là aussi, Alexandre l'idée Sobo. D'uniformiser tous les régimes est sans doute pas la bonne façon de le prendre. La question qui se pose, c'est est-ce que dans deux régimes différents, des gens avec le même type d'activité, le même type de salaire génèrent un droit équivalent? Mais il n'y a pas besoin d'uniformiser l'ensemble pour arriver à ce résultat qui va poser énormément de difficultés techniques et qui va ne faire que retarder le jour où on avancera dans une vraie analyse d'équité entre les grands régimes que sont la fonction publique, les indépendants et les salariés.
Véronique Descac sur les réformes de la retraite.
Mais votre auditrice a raison de lier la question du contrat à la question des retraites. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on discute avec les gens? C'est que de moins en moins de personnes n'ont exercé une seule activité dans la même entreprise avec un seul contrat pendant toute leur vie. Il y a beaucoup plus qu'on imagine de mobilité entre privé et public, entre le statut de salarié, le statut d'indépendant. Donc il y a beaucoup, y compris de mobilité entre les régimes de retraite.
Et aujourd'hui, c'est la principale inéquité dans le système. C'est-à-dire que les gens les plus pénalisés par le système de retraite, c'est ceux qui sont redevables de plusieurs régimes différents.
Et plus de la moitié déjà des gens ont des carrières dans plusieurs régimes de retraite. Donc nous, c'est en constatant ça, il y a déjà un grand nombre d'années qu'à la CFDT, on s'est dit, non pas il faut uniformiser, mais il faut faire converger ces régimes, il faut harmoniser les règles, de façon à ce qu'effectivement, tout le monde soit traité de la même façon, qu'il n'y ait pas de différence quand vous avez une carrière hachée ou quand vous n'avez pas une carrière hachée. Et donc, on a déjà commencé avec les réformes successives à essayer de faire converger les règles pour liquider de la même façon les régimes du privé et du public. Dans le privé, on est en train de le faire entre et l'ARCO. On est en train de fusionner déjà.
Véronique Descac,
on est en train de fusionner le régime cadre et le régime non cadre dans les retraites complémentaires du privé. Et donc, du coup, nous, on sera tout à fait partie prenante d'un système en points, puisque la CFDT avait porté ce principe-là.
Depuis
longtemps déjà. D'un système en points qui permettra à tout le monde d'acquérir des points et de, effectivement, transformer les systèmes dans la fonction publique. Par exemple, le système des carrières dans la fonction publique. Quand vous êtes exposé, on appelle ça le service actif dans la fonction publique. Alors, c'était protecteur à un moment. Ça a été protecteur pour un certain nombre de métiers. Mais on s'aperçoit quoi? Que ces personnes-là peuvent partir au bout de 15 ans de service actif et qu'au fond, elles ont des droits à retraite tout petits, misérables. Nous, on se dit qu'effectivement, si on arrivait à faire basculer ce système du service actif vers le système de la pénibilité comme il existe dans le privé, eh bien peut-être que par exemple les infirmières, les pompiers, tous ces gens qui ont des métiers pénibles, eh bien ils seraient mieux protégés par ce système-là.
Fabrice Angéry pour la CGT, puis le Standard.
Oui, donc sur cette question-là, donc notamment des retraites, donc on voit bien, là on en a parlé de différentes réformes successives, hein, donc certains ont cautionné, on voit bien ce que ça produit aujourd'hui. On a la réalité, c'est que de plus en plus de retraités sont obligés de reprendre une activité pour pouvoir s'en sortir. Et il y avait une mobilisation unitaire des retraités il y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Donc ça prouve bien qu'il y a un souci. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on est toujours là sur un cadre restreint, alors que je rappellerai quand même, donc on a un pays qui crée des richesses. Le principal problème, c'est la répartition des richesses. Lorsqu'on verse 56 milliards de dividendes donc aux actionnaires, on bat des records. Lorsqu'il y a 80 milliards de fraude fiscale, c'est évalué à peu près comme ça. Je pense qu'on peut largement donc assurer une protection sociale de haut niveau. Et nous, voilà, l'uniformité, on l'a fait comment? On l'a fait sur une retraite, donc une retraite à 60 ans, à taux plein, avec au minimum le SMIC. Ça, c'est notre position. Et c'est vers le haut qu'il faut aligner.
Non, la retraite à point, ça va être chacun. Non, non. Le statu quo n'est pas possible.
Véronique, tu as dit, j'ai un temps de parole, on n'est pas un débat, mais quand même. Donc, c'est chacun assure son parcours.
On n'est pas
là-dessus. On ne connaît pas. Chacun n'assure pas son parcours. Nous, on est pour des garanties rattachées à la personne. effectivement, mais qui sont garanties collectivement. Non, donc ça veut dire le droit à la
maintien de la qualification,
le soutien au maintien du salaire. S'il vous plaît, Véronique Descartes.
Je partage avec toi l'idée qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de retraités pauvres. Alors ça dépend par rapport à quelle époque on compare, évidemment par rapport à il y a 30 ans, non. Mais c'est vrai qu'avec les règles d'indexation depuis les années 80 sur la retraite, les nouvelles règles d'indexation, on a le risque de paupérisation des retraités et des futurs retraités. Donc il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, dire qu'il faut faire une retraite par points, c'est pas accepter un pis-aller ou des restrictions pour les futurs retraités. Au contraire, c'est mettre plus de lisibilité, plus d'équité, plus de confiance pour le régime de retraite, et ça n'empêche pas, au contraire, d'envisager une meilleure revalorisation des points pour faire profiter à tous, actifs et retraités, de la croissance.
Un mot, Alexandre Sobeau, puis Fabien au standard.
J'ai entendu Véronique Descaques proposer d'étendre la pénibilité au public, alors qu'il y a un excellent rapport de l'IGAS et de l'IGF qui dit que c'est tellement compliqué que ça n'est pas possible, et je suis tout à fait d'accord pour l'équité, mais il faudrait encore qu'on ait un système qui marche.
Il est 19h48, le téléphone sonne, continue.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Avec Fabien au standard, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais juste réagir à ce que disait le représentant du MEDEF en soulignant qu'il ne faudrait pas de statu quo social dans cette élection. Et il me semble justement que, à l'inverse, cette élection est peut-être la première depuis une trentaine d'années où il y a autant d'innovations sociales. Alors, dans les propositions des candidats, évidemment, ça emprunte des chemins très différents, de la préférence nationale de Marine Le Pen avec ses effets qu'on peut redouter, en passant par, évidemment, une libéralisation du marché du travail à des degrés différents entre Emmanuel Macron et François Fillon, ou le revenu universel ainsi que la taxe sur les robots de Benoît Hamon, ou la sécurité sociale professionnelle défendue par Jean-Luc Mélenchon. Voilà, pour ne parler que des cinq principaux candidats, il y a quand même une grande innovation sociale, et il me semble que c'est au contraire un trait principal de cette élection.
Et vous avez peur que le fait même de gouverner nuise à cette richesse intellectuelle ?
Pas forcément, mais après on voit que les remèdes sont quand même très différents, et donc la société française, c'est sûr, connaîtra des lendemains sociaux très particuliers selon le résultat de cette élection.
Merci Fabien pour cette intervention où l'on retrouve l'idée de richesse intellectuelle, théorique qu'on avait au début de ce téléphone sonne. Bonne nouvelle, nous disait Fabien, et surtout après l'élection présidentielle, des France très différentes, des modèles sociaux très différents. On peut s'attendre, Véronique Descaques, à une réforme ou des réformes en profondeur de la France quand on regarde les programmes des différents candidats.
Alors, dans les thèmes qui ont été cités là, il y a des idées qui peuvent être qualifiées d'innovation. Il y en a qui sont un petit peu des vieilles lunes qui traînent un peu depuis longtemps. La préférence nationale ou la flexibilité du marché du travail, c'est pas spécialement nouveau. Non, moi, ce qui me semble, c'est que pour que les réformes profondes dont le pays a besoin puissent être mises en œuvre, il faut qu'on parte d'un diagnostic commun. Moi, je crois beaucoup que si les Français sont un peu angoissés, pessimistes et plus que dubitatifs devant cette élection, le risque de l'abstention, etc., c'est parce qu'ils sont déboussolés, parce qu'on manque de diagnostic commun. Il faut un moment que le nouveau gouvernement mette sur la table quelle est la situation du pays, quels sont les enjeux devant nous, comment reconstruire un projet qui nous amène de la croissance, quelle politique industrielle faire, quelle coopération européenne, notamment en matière de politique industrielle, mais aussi de politique sociale. Il faut redonner du sens. Dans quel monde nous sommes et où voulons-nous aller?
Le diagnostic est possible, d'après vous, entre gens de bonne volonté? On a du mal même à imaginer qu'il puisse y avoir consensus sur le réel.
Alors, il y a deux grandes visions, effectivement, de la situation du pays. C'était mieux avant. Et donc, comme c'était mieux avant, fermons les frontières, recroquevillons-nous sur notre petite France telle qu'on la connaissait dans les années 70 et essayons de retrouver avec le franc, le protectionnisme économique, l'industrie traditionnelle, une espèce d'Eldorado qui n'existe plus. Ça, j'y crois pas du tout. Et si on faisait un vrai diagnostic, on s'apercevrait vite que ça ne peut mener le pays que dans une impasse. En revanche, si on mesure bien bien qu'avec le numérique, mais avec les biotechnologies, avec même, alors évidemment, la transition énergétique, c'est tellement devenu la palissade qu'on oublie de le dire, mais c'est vrai, mais même une meilleure réponse aux besoins sociétaux, le besoin d'accompagnement des individus dans leur vie quotidienne, l'allongement de la durée de vie qui est une opportunité formidable, mais qui peut aussi apporter des gisements d'emploi en matière de culture, en matière d'éducation, par exemple. Bon, tout ça, c'est possible, ça nécessite des investissements massifs, c'est pour ça que la CFDT a soutenu les politiques de relance par l'investissement, mais ça nécessite des investissements français, ça nécessite aussi la coopération pour des investissements européens. Donc si on fait ce diagnostic qu'on peut s'en sortir par le haut et par l'ouverture sur l'Europe, je ne dirais pas sur le monde, parce qu'il ne faut pas être naïf dans la mondialisation, mais en tout cas qu'on peut construire au niveau européen un modèle de développement qui tire tout le monde par le haut, y compris les salariés et les travailleurs, eh bien, je pense que ce diagnostic il doit être fait dès le début du septennat pour
du quinquennat,
pour que les réformes puissent être engagées vite.
Alexandre Sobo pour le MEDEF.
Il me semble qu'il y a effectivement dans cette campagne plein d'idées, mais il y en a beaucoup qui sont très dangereuses. Véronique Descac l'a évoqué, la sortie de l'euro, le repli sur soi, quand on voit l'état de l'économie française et en particulier de son industrie, on ne s'en remettrait pas. Aujourd'hui, il y a énormément de composants et de produits qui sont juste plus fabriqués en France. Et inversement, on a en France une imagination, des savoir-faire dans toutes les sciences de demain et dans tous les sujets de demain. On a parlé de biotechnologie, on peut parler de big data, on peut parler de fabrication additive, l'impression 3D. Ce sont des formidables opportunités pour qu'on montre qu'on est meilleur que les autres. Et donc, il faut jouer nos atouts plutôt que le repli sur soi. Et là, moi, j'étais traumatisé par la taxe sur les robots. Le travail se transforme, le robot fait du travail quelque chose de plus intéressant, de plus valorisant, de mieux payé. Donc, il le transforme. Il faut être capable de gérer ces transformations, d'accompagner les gens dans cette évolution de leur travail. Mais le repli sur soi ou la taxation des robots seront des catastrophes pour le pays.
Le corollaire de la taxation des robots, c'est une analyse de la disparition du travail.
Mais totalement erronée.
Ou de sa raréfaction. Les deux vont ensemble.
Oui, mais elle est juste complètement erronée. L'histoire démontre que toutes ces révolutions technologiques ont transformer le travail, elles ne l'ont pas fait disparaître. Et aujourd'hui, quand on prend nos grands voisins, l'Allemagne, l'Angleterre, pour ne citer que les deux principaux, ils sont au plein emploi. Donc la disparition du travail est un fantasme français et en aucun cas une réalité du monde.
Fabrice Angéhi pour la CGT.
Oui. Moi, je pense qu'il manque, effectivement, il y a un certain nombre de propositions qui ne vont pas toutes dans le même sens. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Mais effectivement, on ne pense pas qu'on soit sur la fin du travail. Mais on pense que le travail se transforme. Et voilà. Mais là-dessus, moi, ce qui manque, je trouve, dans cette campagne, c'est une vision de la société. Donc, parce que diagnostic, on en a dans diverses, on en fait diagnostic en termes de diagnostics qui sont faits par plusieurs organismes.
Se mettre d'accord sur ces désaccords.
Je pense que c'est pas les diagnostics qui posent souci. Moi, je pense effectivement cette vision de la société. Et par exemple, je vais prendre un exemple. La question de l'État. Quel rôle de l'État? Mais c'est aussi bien valable aussi pour l'industrie, par exemple. Est-ce qu'on va sur le CICE où on voit que ça n'a pas créé beaucoup d'emplois en l'occurrence. Est-ce que l'État est un actionnaire comme un autre qui veut une rentabilité à deux chiffres dans l'industrie, ou est-ce qu'on a un État stratège qui investit, qui accompagne? C'est tout le rôle des banques, c'est pour ça aussi. Donc est-ce qu'on veut une économie bancaire qui soutienne l'économie productive? C'est vraiment ces questions-là aussi. On ne peut pas séparer, c'est pas qu'une question de méthode et de diagnostic, parce que c'est aussi une question de quelle réponse on donne quelle réponse on donne en termes donc de progrès social et de projet de société.
On retourne au standard. Je salue Lucie qui nous appelle de Paris. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Bonsoir.
Bonsoir.
En fait, moi, ma question, c'est pour revenir sur les régimes des auto-entrepreneurs. Parce que moi, je suis auto-entrepreneur depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai 29 ans, j'ai commencé à 4 ans. Et je pense pas qu'un jour, je serai salariée parce que je travaille dans des entreprises qui sont trop... Enfin, soit disons assommés par les charges. Et moi, du coup, je cotise pas pour la retraite, pas pour le chômage, j'ai le RSI qui est pas super bien non plus. Et du coup, dans l'élection présidentielle, là, j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de ça. Et ça touche beaucoup de jeunes parce qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs. Et du coup, je voulais savoir un peu comment on pouvait mieux protéger ce statut.
Lucie, juste une question, auto-entrepreneur, donc par nécessité, hein, c'est ce que vous venez de dire.
Pas le choix, en fait.
Voilà, vous n'avez pas le choix.
Oui, c'est du salariat déguisé.
C'est du salariat déguisé.
Trop beaucoup, oui.
Voilà, on vous entend mal, Lucie. La ligne est mauvaise. Tour de table, donc, Véronique Descac, sur le témoignage, l'analyse de Lucie.
D'abord, quand c'est vraiment du salariat déguisé, nous, on prône d'accompagner les gens qui sont victimes de ces formes de relations de travail pour faire reconnaître le lien salarié entre le donneur d'ordre et puis le prétendu auto-entrepreneur. Mais plus largement, parce que ça concerne une marge assez faible des gens qui travaillent en auto-entrepreneuriat. Nous, c'est pour ça qu'on a défendu le compte personnel d'activité, j'en parlais tout à l'heure. Parce qu'au travers du compte personnel d'activité, on protège les gens, on leur donne des droits qu'on attache à eux, à leur personne, indépendamment de leur statut, qu'ils soient salariés ou non. Alors, on a commencé, on a mis un pas, on a donné essentiellement des droits à la formation professionnelle pour les auto-entrepreneurs dans le cadre du CPA. Mais cette dame a cité deux sujets sur lesquels il va falloir travailler. Bon, le chômage, il y a un candidat qui en parle, d'ouvrir l'assurance chômage aux auto-entrepreneurs. Dans l'accord qu'on a signé sur l'assurance chômage la semaine dernière, c'est un des thèmes qu'on met à l'étude pour les mois à venir. Mais plus globalement, retraite, protection sociale, protection d'outils de travail aussi. Des auto-entrepreneurs, par exemple ceux qui livrent, vous savez, à vélo, là, ils nous disent on a besoin de protéger notre outil de travail. Donc je pense que dans ce compte personnel d'activité, il faut maintenant qu'on invente toutes ces nouvelles protections.
Alexandre Sobo pour le MEDEF.
L'idée dans ce monde qui se transforme et qui bouge plus vite d'aller vers un attachement des droits à la personne plutôt qu'au statut est dans le sens de l'histoire et il faut qu'on soit capable de construire une solution qui à la fois réponde à l'exemple qui a été donné et en même temps qui soit compatible avec le changement de statut. Il ne s'agit pas de remplir le sac à dos d'un salarié pour réduire son employabilité. Donc on a cet équilibre à trouver et incontestablement l'outil d'attacher les droits à la personne va dans le sens de l'avenir. À nous, comme on a su le faire sur chômage, et ben il va falloir se remettre autour de la table pour construire là aussi une solution au plus près du terrain, adaptée aux réalités et si possible ne pas se la faire imposer d'en haut.
Fabrice Angéi pour la CGT.
Oui, les droits rattachés à la personne et transférables, donc qui est opposable d'entreprise à entreprise. La CGT, ça fait 15 ans qu'elle porte à travers le nouveau statut travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. Mais ce que je dis là, la question est intéressante. À la CGT, on les côtoie, on a organisé des travailleurs faussement indépendants, des coursiers à vélo justement. On a créé un syndicat départemental en Gironde. Et c'était bien ce que la doctrice a dit, c'est bien ce cas de figure-là. Nous, ce qu'on dit, il faut sortir d'une zone grise. Donc, c'est effectivement ces droits à la représentation collective auprès des plateformes, par exemple. Et c'est aussi droit et garantie pour ces personnes, enfin, ces travailleurs, soit des indépendants.
Merci à tous les trois. Merci aux auditeurs de France Inter pour ce riche téléphone sonne. Le journal à suivre.